Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'Entreprendre. On pourrait le comparer au TripAdvisor de la santé. Hospitalidée est un site internet qui permet aux patients de donner leur avis sur les établissements de santé. Un site 100% toulousain, né il y a 3 ans, une start-up en plein développement. Son fondateur Loïc Rénal est avec nous pour en parler. Et si les patients des hôpitaux et cliniques devenaient des clients? C'est une mini-révolution culturelle qui s'annonce. Pourquoi choisir tel établissement de santé plutôt qu'un autre? Est-on en droit de lui mettre une note, comme pour un hôtel ou un restaurant? Loïc Rénal, vous répondez par l'affirmative. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Alors vous avez créé un site d'avis de santé. Comment ça fonctionne?
Ben de la façon la plus simple qui soit, c'est qu'on va permettre à un patient de donner son avis sur son séjour à l'hôpital ou dans une clinique. De manière extrêmement simple, avec des petits boutons sur le téléphone ou des petits menus déroulants sur l'ordinateur. Et l'intérêt, ça va être de permettre à d'autres patients comme lui d'avoir connaissance de cette expérience et du coup de faire le meilleur choix possible.
Ce n'est pas un forum.
Ce n'est pas un forum justement, c'est plus un site d'avis, ce qui a l'avantage d'être beaucoup plus structuré et d'avoir un accès à l'information immédiat, contrairement au forum où on étale davantage un ressenti, là l'information est beaucoup plus structurée.
Alors comment vous arrivez à donner la parole aux patients, que vous appelez aussi d'ailleurs des clients d'hôpitaux, des clients de cliniques?
Bon, sur le principe, il n'y a pas nécessairement de gros mots dans ces vocabulaires-là. En termes de clients, c'est davantage un esprit tourné client. Mm-hmm. On peut parler d'usagers, on peut parler de patients, de citoyens, tout cela vaut. Là où nous interpellons les établissements, et beaucoup sont déjà de toute façon extrêmement bien engagés dans ce sens-là, c'est de savoir écouter les patients, leurs ressentis, ce qu'ils ont vécu, leurs besoins, leurs peurs, leurs attentes. S'il faut alors les appeler clients, appelons les clients. Mm-hmm. Le but du jeu, c'est que les patients puissent s'exprimer et que l'établissement, au-delà des soins, qui en France sont plutôt d'un excellent niveau, mais c'est que l'établissement puisse aussi prendre soin de ces patients.
Alors vous voulez dire que votre site internet est un outil pour les établissements de santé?
Absolument.
C'est comme ça que vous le présentez?
Absolument. Tout ce que nous pouvons récolter en termes de ressenti du patient, de son expérience, de son vécu, tout ce qu'il voudrait dire finalement à l'établissement qu'il ne peut pas faire et qu'il livre après sur son site et qu'il partage avec les autres, nous le restituons à l'établissement. Alors évidemment, c'est 100% anonyme,
ouais.
Et nous avons pris des engagements en ce sens vis-à-vis de la CNIL, notamment.
Bien sûr.
En revanche, nous permettons aux établissements d'en avoir connaissance pour améliorer les prestations de soins ou de services.
D'accord, on va y revenir justement sur cet aspect-là. J'aimerais qu'on parle de votre aventure à vous, votre aventure entrepreneuriale. C'est un peu celle d'une reconversion réussie, puisque au départ, votre environnement professionnel n'était pas lié à la santé et pas lié au numérique.
Absolument rien à voir, je suis un patient comme d'autres. Et tout simplement, c'est quand un jour ma femme m'annonce qu'on attend un bébé, je cherche la meilleure maternité de Toulouse, évidemment, et je vais sur Google, comme tout le monde.
Ouais.
Et là, je ne trouve pas de site qui m'informe de ça. Il existe des sites faits par l'État ou le ministère de la Santé, mais qui ne me parlent pas. Et je cherche l'avis d'autres mamans ou d'autres papas pour choisir la bonne maternité près de chez moi. Et comme ça n'existe pas, j'ai l'idée de le créer, de le tester, et finalement, face à l'engouement créé, on a décidé avec quelques collègues de créer ce site-là.
D'accord, donc au départ vous étiez seul et quelques amis, quelques bonnes volontés.
Au départ tout seul, sans aucune connaissance, mais finalement, la presse notamment, la presse, les témoignages d'établissements sur la qualité de ce que nous offrons, et l'appel des patients à le poursuivre, nous a invités à nous engager pleinement dans cette aventure.
Et vous êtes combien aujourd'hui?
Donc aujourd'hui, nous sommes 5 salariés.
Ouais.
Nous allons passer à 9 d'ici un mois. Et à 12 en début d'année prochaine.
Alors quel profil dans votre entreprise? Vous avez des développeurs,
bien
évidemment. Des commerciaux également pour vous mettre en contact?
Alors on n'a pas de commerciaux
cliniques.
Parce que l'offre que nous proposons aux établissements est gratuite.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire d'argent là-dessus. Pour un patient, c'est gratuit. Et pour un établissement de soins, c'est gratuit aussi.
Mais
la restitution est gratuite.
Donc,
il n'y a pas de commerciaux, mais nous avons des accompagnateurs pour permettre aux établissements de prendre en main les outils que nous leur offrons de les mettre en place et d'être sur un dialogue au fil de l'eau avec le patient. Donc ça, nous avons des accompagnateurs, des développeurs, et depuis le début, nous avons des experts du digital pour que le site soit parfaitement adapté aux attentes des utilisateurs et des établissements.
Mmh. Alors, tout est gratuit. Et vous gagnez comment, l'argent?
Au début, comme nous avons une offre qui est canon, hein, pour les établissements, pour les hôpitaux et les cliniques, on avait imaginé la faire payer.
Eh oui.
Après, on a vu que ça restait quand même une barrière à l'entrée, mm-hmm. que ça restait difficile pour les établissements qui peuvent être en plus dans des situations budgétaires difficiles, vu les contraintes que leur impose le ministère. Donc, on a voulu le faire gratuit. Et c'est pour ça que depuis le début, c'est gratuit. Et on va se rémunérer à partir de 2017 sur des formats publicitaires.
D'accord, donc vous faites rentrer la pub sur le site.
Absolument.
Que vous ouvrez aux hôpitaux, enfin aux cliniques, aux privés?
C'est plutôt sur les annonceurs,
ouais.
Les annonceurs tiers à ce jour.
D'accord. Est-ce que vous laissez un droit de réponse aux médecins? Je suis allée voir sur votre site, sur un poste, il y a une patiente qui se plaint d'avoir payé 28 euros pour une consultation et d'être sortie sans solution, etc. Bon, elle râle un petit peu. Vous pouvez aussi vous trouver face à des internautes qui soient particulièrement râleurs, ou pourquoi pas de mauvaise foi? Comment vous réagissez?
Alors, déjà oui, pour répondre à votre question, il y a le droit de réponse sur le site qui est naturellement gratuit, hein, que ce soit pour un établissement ou pour un praticien.
Pour un médecin, ouais.
Tout le monde a le... Puisque les patients ont le droit d'écrire, les professionnels ont le droit de répondre. Et ça, c'est gratuit, c'est très largement engagé, encouragé. Ensuite, ce qui va compter pour nous, c'est l'absence de jugement des personnes. Nous avons un modérateur à temps plein dans l'équipe, et bientôt deux, puisque nous avons entre 500 et 1000 avis par jour dès lors que nous sommes actifs sur la toile. Et donc, nous allons avoir entre un et deux modérateurs à temps plein pour empêcher...
Ouais. Ouais.
Tout message diffamatoire, non éthique, etc. Aujourd'hui, s'il y en a une force dans le site, c'est l'éthique.
Ouais.
Et fin mai, d'ailleurs, au Grand Salon de l'Hôpital à Paris, nous avons reçu le Grand Prix de l'Hôpital de demain, justement pour des motifs éthiques. Quand on nous appelle le TripAdvisor, ça nous fait plaisir et c'est flatteur.
Ouais.
En vérité, j'aime moyennement, parce qu'on est le TripAdvisor, mais l'éthique en plus. Et on ne permet pas de diffuser tout type d'avis dès qu'il juge une personne... La vie est modérée.
Bien
dès
sûr.
Qu'il juge la compétence de médecin, la vie est modérée. Mais dès qu'il va permettre à l'hôpital d'entendre une idée d'innovation, par exemple, une source d'amélioration des processus de soins ou de services, la vie est publiée.
Oui, oui, pas d'avis diffamatoire.
Pas d'avis diffamatoire, aucun.
Alors, on parlait de mini-révolution culturelle il y a quelques instants. C'est vrai que c'est pas banal en France de noter les cliniques, les médecins. Aux États-Unis, par contre, c'est monnaie courante.
Oui.
Vous essayez d'expliquer ça aussi? Ce côté un peu de faire preuve de pédagogie pour dire aux gens, parler, expliquer, donner des idées, échanger.
La pédagogie du côté du patient est moins nécessaire que du côté des établissements. C'est devenu monnaie courante aujourd'hui, on donne son avis sur tout, tous les produits, tous les services, hein, que ce soit un restaurant, un système d'assurance, une banque, ou des livres, hein, à la FNAC ou sur Amazon, on donne son avis sur tout aujourd'hui. En revanche, de pouvoir donner un avis sur son médecin ou son établissement de soins, ce n'est pas encore culturellement accepté par l'institution en place. C'est donc un processus de changement qui va prendre son temps. C'est un monde de sachants, le monde de la santé, qui voit le patient d'en haut. On propose de renverser la pyramide pour que le patient ait son mot à dire et puisse faire ses choix en fonction des avis des autres.
Mais vous en conviendrez, on ne choisit pas toujours son hôpital, sa clinique, son médecin, on n'a pas toujours le choix.
Ah, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas toujours le choix. Ça dépend d'où on habite, ça dépend de sa pathologie, ça dépend des moyens de locomotion, ça dépend de beaucoup de choses. Et ce n'est pas une raison pour empêcher les autres de ne pas avoir le choix de le faire.
Est-ce que c'est un site, par certains avis, qui peut inquiéter parfois certains médecins? Est-ce que vous avez eu des retours de ce type?
Concernant les médecins, oui, puis je peux le comprendre. C'est pas tout à fait encore dans la culture et encore moins dans la culture française d'écouter. Le savoir nous enferme d'une certaine façon. Quand on est convaincu d'avoir le bon diagnostic ou d'avoir raison, on gagne pas à écouter les autres. Et bien souvent, je pense, dans ce que pensait aussi quelqu'un comme Mandela, c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors qu'on gagne à écouter l'autre. On gagne à écouter son voisin, on gagne à écouter son patient. Et sur le site, j'en reviens à la dimension éthique, on ne juge pas le médecin. Le patient exprime des attentes ou des peurs sur la façon d'être pris en charge. C'est sur les qualités relationnelles, c'est sur l'accueil, c'est sur le suivi, c'est sur la réponse aux questions. Par exemple, il y a une des questions qu'on aime bien poser, c'est « Votre médecin a-t-il pris en compte vos questions que vous avez eues suite à vos recherches sur Google ?» C'est une façon de ne pas nier la réalité. Aujourd'hui, les patients font des recherches sur Google et attendent du médecin de répondre à leurs attentes, voire à leurs angoisses. Parce que des fois, on peut en ressortir
bien
encore
sûr.
Plus angoissé que quand on y est allé au départ.
Ouais.
Quelle est la stature là-dessus du médecin? Faut-il nier cette réalité? Faut-il dire non, moi je sais, écoutez et obéissez?
Alors, qu'est-ce que vous avez comme réponse, justement, là-dessus, que vous disent les professionnels de santé?
Ça dépend des professionnels. Je pense qu'il y a de tout. Ça sera un processus assez long. On observe quand même plus d'ouverture du côté des établissements de santé qui ont bien conscience de l'enjeu d'écouter les patients pour adapter les processus et faire venir finalement aiguiller les patients vers ces cliniques ou ces hôpitaux-là. Et du côté des médecins qui ont souvent, j'allais dire des listes d'attente, enfin, qui ont souvent les cabinets pleins, on sent que l'écoute est plutôt un projet d'avenir.
Ils ne sont pas prêts à écouter, c'est ça?
C'est plus un projet d'avenir.
Oui, c'est ça en fait, la réponse à la question. Quel est le constat que vous pouvez dresser aujourd'hui en matière d'accueil dans les établissements de santé? Alors, vous nous disiez que c'est en bon chemin, il y a des choses qui sont faites. On prend davantage en compte le patient, le client dans sa globalité?
Sincèrement, je pense que oui. Je pense que globalement, les établissements évoluent vers plus d'ouverture, plus d'intégration de la vie des patients. Mais déjà parce que ça a été imposé par la loi, avec la création des comités de relations avec les usagers et autres. Mais en même temps, on observe que les dirigeants sentent qu'il est devenu nécessaire de faire entrer le dehors dedans, de plus avoir tous raison tout seul dans ses murs. Donc je pense que c'est un processus qui a pris sa place et qui va grandir de manière exponentielle.
Et vous allez y contribuer. Vous restez avec nous. Loïc Reynal, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de l'émission avec Loïc Reynal du site hospitalidée.com. Il invente l'hôpital de demain. On va en parler dans quelques instants. Avec vous, Jean-Marie Ferenbach. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité.
Alors, j'écoutais ce que vous nous disiez et je me disais, on a l'impression que tout ça est très fluide, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi qu'en France, en ce moment, vous devriez sentir dans vos avis, on n'arrive plus à avoir un rendez-vous avec un médecin. Non ? Est-ce que ça se sent dans votre accumulation de données ?
Ce n'est pas ce qui ressort en premier. Nous avons beaucoup d'avis sur les hôpitaux et cliniques. Du côté des médecins, il y a aussi des avis qui peuvent parler de la lenteur avant de prendre le rendez-vous. Mais on observe quand même que c'est loin d'être la première attente du patient. On a quelques mesures qui sont très intéressantes là-dessus, c'est que le délai d'attente, que ce soit chez un praticien ou même aux urgences, on peut attendre 3 heures ou 4 heures aux urgences, apparaît en dernier dans les attentes.
Ah oui.
Et il est corrélé à zéro, c'est-à-dire il n'y a aucun lien entre l'attente et la satisfaction du patient. C'est-à-dire qu'on est prêt à attendre dès lors que le moment vécu avec le praticien est un moment qui répond à ses questions, à ses peurs, à ses besoins. En clair, on peut attendre 3 heures aux urgences. Tant que le médecin nous a regardé dans les yeux, nous a écoutés, nous a rassurés quand on en a eu besoin, nous a serré la main et nous a dit comment ça allait se passer sur la suite du parcours, quitte à prendre le téléphone pour appeler le service suivant, alors l'expérience est réussie.
Il y a beaucoup de relationnel hein, dans tous les commentaires. On le voit en visitant votre site, beaucoup d'humains, hein, les questions de peur aussi.
Ah oui, alors absolument, la peur prédomine dans les émotions. On voit au travers de ce que disent les patients qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et derrière ce besoin de réassurance, c'est beaucoup d'informations, de bienveillance, de réponses aux questions et aux craintes. Et on peut voir, s'il y a un mètre au moins à retenir derrière cette peur-là, c'est la reconnaissance. De tout ce que nous pouvons lire, les patients crient au besoin de reconnaissance de leur personne au sein de l'hôpital. Des patients, certes, des dossiers, des numéros de dossiers, c'est pire. D'abord, reconnaissez-moi comme un humain qui a peur, qui souffre, et qui met sa vie entre vos mains le temps de quelques heures ou de quelques jours pour un séjour d'hospitalisation. Ce besoin de reconnaissance est criant.
Ah oui, c'est ce que vous le sentez nettement.
Ouais. Oui.
Vous avez mené des études là-dessus ?
Oui, nous avons plusieurs dizaines de milliers d'avis qui ont été publiés sur le site jusqu'à présent. Et nous sommes partenaires BVA, l'Institut de sondage, qui vient là pour garantir la fiabilité de notre méthode. Et nous publions ensuite dans la presse ces résultats. Donc ici, par exemple, pour la région toulousaine, deux pages sont sorties cet été, publiant les résultats de cette étude. Un chiffre à retenir, 40%. 40% des patients ne se sentent pas en sécurité ou pas du tout en sécurité à l'hôpital.
Et pour quelle raison ?
Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ils se sentent, entre guillemets, si vous me permettez, trimballés.
Ouais.
Ils viennent, ils savent pas trop ce qu'ils ont, ils s'en confient à des sachants, mais ils ne se sentent pas considérés dans leur être, si je peux me permettre l'expression. La qualité d'accueil, la qualité de l'information, la mise en sécurité du parcours de soins, le contrôle qui va être fait, le suivi qui va être fait, la façon avec laquelle on lui a annoncé éventuellement une mauvaise nouvelle, etc. Tout ça le rend dans un état d'esprit fébrile.
Angoissé.
Ça, ouais. Alors, là où l'information est intéressante, ce chiffre est intéressant, c'est qu'avant, on avait peur d'aller à l'hôpital. On a une appréhension, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, comme on disait tout à l'heure. On avait peur d'aller à l'hôpital. Là, l'étude que nous publions révèle qu'on a peur au sein de l'hôpital. Là où c'est positif comme information, c'est que ça nous permet de dire avec force détail à l'établissement qu'il a la main, du coup. Ça se passe à l'hôpital. L'établissement a la main pour adapter ses processus d'accueil, ses processus relationnels, les réponses à donner aux patients. Il a la main faire évoluer ce chiffre.
Est-ce que vous avez eu des retours des établissements sur ce chiffre de 40% qui est quand même impressionnant?
Oui.
Comment réagissent les établissements quand ils découvrent cette situation de peur à l'intérieur de l'établissement?
Le chiffre surprend, certes, mais personne n'a été surpris en réalité. Alors ce que je vous dis, c'est du off parce qu'il n'y a pas eu de publication officielle. Donc ce qui est off de la part de directeurs ou de représentants d'institution, c'est pas surprenant. Je pense que l'hôpital en France sait qu'il peut mieux prendre soin de ses patients.
Mais ont-ils les moyens ? Voilà, on en revient à ce problème de moyens et de gestion. Ont-ils les moyens de le faire ?
Mais sincèrement, je pense franchement que c'est un faux débat. Et venant d'un grand groupe public, et ayant eu des expériences là-dessus, je maintiens que c'est un faux débat. C'est pas une question de plus d'argent de mieux prendre soin. C'est une question de s'organiser autrement.
De changement de mentalité ?
De changement de mentalité.
Prise de conscience ?
Absolument. Et peut-être faut-il, au niveau le plus haut qui soit, et notamment au ministère, par exemple, c'est permettre à des établissements, cliniques privées ou hôpitaux publics, de leur donner des marges de manœuvre sur le terrain, d'être moins derrière les ordinateurs à rendre compte et à remplir des formulaires, et libérer le temps médical. Redonner du temps aux médecins, redonner du temps au personnel soignant, pour s'occuper des patients.
Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces données? Parce que c'est quand même c'est riche, c'est très riche.
Nous allons les publier au fur et à mesure dans la presse au niveau de chaque région pour aider à prendre conscience. Et nous continuerons de dénoncer au plus haut niveau les excès de la bureaucratie dans le monde de la santé pour encore une fois permettre à ceux qui œuvrent sur le terrain, des directeurs des cliniques et d'établissements, d'hôpitaux, les médecins et le personnel soignant, d'œuvrer pour le patient et pas pour la bureaucratie.
Ça vous plaît d'avoir ce rôle de poil à gratter ?
Ah oui, parce qu'on est convaincu du bien fondé. Il est inadmissible, en tout cas pas tolérable, que des patients souffrent à ce point, 40% ne sont pas en sécurité, juste pour satisfaire des besoins de réassurance d'un niveau bureaucratique qu'on ne voit jamais.
Jean-Marie, une autre question.
Alors, vous nous avez parlé pas mal des établissements et de leurs relations que vous avez avec eux, de leurs réactions. Est-ce que vous avez des retours intéressants du côté des généralistes ou de spécialistes? Est-ce que là, il y a des populations différentes dans la réaction par rapport à vos données?
Le côté des médecins de ville, que ce soit généralistes ou spécialistes, nous l'avons encore assez peu ausculté. Les patients s'expriment beaucoup là-dessus. On a beaucoup d'avis. Sur les avis, quand même, globalement, un autre chiffre intéressant, c'est que 88% des avis sont positifs sur le site. Alors, en superficie, c'est quand même super intéressant. Et puis, ça coupe court à l'argument « oui, mais seuls les mécontents s'expriment ». Et non, les patients aussi, dans leur besoin de reconnaissance, en expriment aussi vis-à-vis de leur médecin ou du praticien. Et dans la reconnaissance qu'ils s'expriment, que ce soit un généraliste ou un spécialiste, ou le personnel soignant, ils disent merci. Ça témoigne du fait qu'ils deviennent très chargés d'émotions et que ce qui compte pour l'établissement, c'est de prendre en charge cette émotion. Ouais. Une fois qu'ils en sont sortis, ils savent dire merci. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que notre action est forte pour dénoncer les excès de tout ce qui n'est pas lié au temps médical. C'est que ce qui fait la force d'un établissement aujourd'hui, c'est en premier, c'est la qualité du temps avec le médecin et la bienveillance du personnel. Si vous lisez les avis sur le site, beaucoup de patients disent merci à Claire, merci à Paul, merci à Joséphine, qui est l'aide-soignante ou qui est l'infirmière, qui a été juste là, au bon moment, bienveillante, qui a posé sa main sur la main du patient, qui l'a rassuré.
Que pense l'Ordre des médecins de votre initiative ?
Nous sommes très soucieux de ce que pense l'Ordre, puisqu'on ne veut pas être les Uber de la santé. Donc nous les avons informés rapidement, très tôt, et les engagements que nous avons pris, à savoir ne pas juger les personnes, ne pas juger la compétence du médecin. Autant nous pensons que le patient a beaucoup de choses à raconter sur le prendre soin, autant nous estimons qu'il n'est pas compétent pour juger de la qualité du soin. Donc ça, je pense que ce sont des engagements
que vous arrivez à tenir jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est un engagement éthique qu'on tient, qu'on paye. Hein, on a un modérateur à temps plein, bientôt deux, exprès pour ça. Et je pense que ça va dans le sens éthique d'un ordre comme celui du
conseil de l'ordre. Oui, parce que vous devez être quand même particulièrement observé par l'ordre des médecins.
Lui et d'autres, oui, certainement.
Jean-Marie, notre question.
Oui, alors, vous adressez à des personnes qui ont expérimenté le monde médical. Est-ce qu'il y a des choses à dire à tous ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté?
Je leur dirais simplement, écoutez les autres patients comme vous et faites le bon choix pour vous orienter vers l'établissement qui vous convient.
Comment vous voyez évoluer votre entreprise dans les mois, les années qui viennent? Alors les mois, vous nous avez dit, vous allez recruter bientôt. D'ailleurs, vous avez des postes? On peut peut-être lancer un appel.
Ah oui, bon, on cherche des développeurs PHP Symfony, cherche des accompagnateurs qui ont le sens du relationnel, on cherche un community manager supplémentaire et on cherche un expert du e-commerce, du commerce digital.
Bon, ben voilà,
par exemple.
On peut vous joindre facilement par votre site. Ça, c'était en off.
Merci.
Comment vous voyez évoluer votre entreprise
Pour l'instant, c'est sûr que ça va très vite puisqu'on a à peine un an d'existence et on va déjà passer une petite douzaine. Donc ça va très très vite. Ce que j'imagine pour la suite, c'est d'être la plateforme qui fait référence en France sur les avis de santé et de continuer d'offrir des nouvelles fonctionnalités aux patients et d'aider en même temps, puisqu'on ne fera jamais avancer le site que si on aide les deux parties, les patients et les établissements, pour améliorer le prendre soin.
Mais c'est impressionnant, et je crois que c'est assez remarquable de voir à quel point vous êtes un créateur, un constructeur d'un pont entre patients et établissements ou système hospitalier et système de santé. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir...
De faire ce lien.
Et ce qui est génial, c'est que c'est un projet qui fait sens, du coup.
Être constructeur de pont, ça me paraît intéressant.
Oui. Ouais. Et l'équipe n'a pas le sentiment d'être au travail, c'est ce qu'il raconte. Et ça, pour un créateur, un manager, c'est génial à entendre. C'est la plus belle récompense.
Tout à fait.
Ils ne viennent pas au travail. Ils œuvrent pour un projet qui fait sens, qui est humain, qui bouge des lignes et qui combat quelque chose qui est juste insupportable. Voilà. Préférer l'administration et être derrière un écran plutôt que le soigner, c'est insupportable.
Vous êtes les seuls en France à proposer ce type d'ouverture sur le monde médical.
Pour l'heure, me semble-t-il, même si on a pu entendre au printemps quelques initiatives ici ou là, mais on voit que c'est très difficile à émerger. C'est difficile comme métier. Voilà, maintenant qu'on va être une douzaine, on va pouvoir arriver à faire quelque chose. Et à faire émerger, ça reste un métier.
Vous avez un bel outil entre les mains. On va rappeler l'adresse de votre site internet.
C'est www.hospitalidée.fr.
Merci beaucoup Loïc Rénal.
Merci
d'avoir
vous.
Été notre invité. Merci à vous Jean-Marie Fehrenbach. Si vous souhaitez nous joindre, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.